Partie 1. Compréhension orale. Cette partie du test comprend 3 sous-parties. Vous allez écouter 3 enregistrements. Vous écouterez chaque enregistrement 2 fois. Pendant l'écoute, répondez aux questions sur la feuille qui correspond. Suivez les instructions pour savoir quelle feuille vous devez remplir. Maintenant, vous prenez la feuille marquée d'une petite croix. Première sous-partie. Anna Gavalda, une fille bien. Écoutez l'interview que cette écrivaine à succès a donnée à la revue féminine Elle. Le lendemain de la parution de son roman, Je l'aimais. Pour les questions suivantes, de 1 à 7, choisissez la bonne réponse. A, B, C ou D. À chaque fois, une seule réponse est correcte. Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d'une petite croix. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire les questions de 1 à 7. Maintenant, vous écoutez le premier enregistrement.
Anna Gavalda, bonjour. C'est par une constatation que je commence notre entretien. Malgré les propositions intéressantes des grandes maisons d'édition, vous êtes restée fidèle à votre petit éditeur. C'est le dilettante éditeur qui vous avait découverte. Vous n'êtes pas la première à dire que vous vous moquez de la gloire et de l'argent. Mais vous êtes la première que l'on croit vraiment.
Vous connaissez le proverbe « l'argent ne fait pas le bonheur » ? Moi, j'y crois. La célébrité peut être une chose éphémère, d'où l'importance de garder une certaine distance. Et attention, il ne faut pas confondre le succès et la gloire.
Vous n'avez rien changé à votre vie ? Vous habitez toujours à 50 km de Paris ?
Pour élever des enfants, ce n'est pas si mal. Je dis toujours « petits-enfants, petite vie ». Grands enfants, grande vie. J'ai une petite vie de mère, pas très loin de la capitale. Je prends du temps pour aller chercher mes enfants à l'école, m'arrêter à la boulangerie, dire bonjour aux gens dans la rue. Ce n'est pas mal d'être en dehors, ça permet de mieux observer. Je suis spectatrice du monde.
Et comment la spectatrice est-elle devenue écrivaine ?
Jamais je n'ai osé dire « je serai écrivaine ». Je trouve ça prétentieux. À la fac de lettres, j'étais entourée de gens qui racontaient qu'ils allaient écrire. C'était grotesque. Je me dis toujours que mieux vaut faire que dire. Au départ, je préférais m'imaginer écrire plutôt qu'écrire vraiment. Parce que, quand tu t'y mets, ce n'est jamais aussi bien que dans ta tête. Puis un jour, je me suis lancée.
Comment avez-vous vécu le succès de votre premier livre ?
Comme à l'époque, je me séparais de mon mari, ça m'est complètement passé au-dessus de la tête. Pendant la journée, c'était la présentation de mon livre, je n'entendais que des « c'est super, t'es génial » et le soir, chez moi, j'étais triste. Maintenant, je me dis que c'était une chance parce que ça m'a permis de ne pas prendre la grosse tête. Et puis, comme je dis souvent, le cœur se brise ou se bronze.
Vous vous étiez mariée très jeune.
À 23 ans. Je suis partie de chez mes parents à 14 ans, j'ai fait plein de métiers, j'ai été caissière à Monoprix par exemple. À 23 ans, j'ai pensé qu'il était temps de me ranger. J'ai eu beaucoup de vie, mais tout ce que j'ai vécu, c'est de la matière pour écrire. Tout est bon à prendre.
Écrire, est-ce une thérapie ?
Je trouve que dire ça serait déplacé et peu respectueux envers mes lecteurs. Non, j'écris parce que je suis faite pour ça. Le bon Dieu m'a faite ainsi et j'accomplis ce travail. Je sais raconter des histoires, c'est mon petit don à moi. J'ai arrêté d'enseigner pour me consacrer entièrement à mes livres.
Qui est le premier lecteur de vos livres ?
J'ai dédié mon premier livre à ma jeune sœur. Comme vous le savez, c'est un recueil de nouvelles intitulé « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part ». Elle est ma première lectrice et quelquefois la dernière. Si elle me dit que ça ne va pas, je jette. Elle représente pour moi mon alter ego, mon autre moi, mon idéal sensible. Et puis c'est une fille bien et j'ai envie de plaire aux gens bien.
Maintenant, vous écoutez le premier enregistrement encore une fois.
Anna Gavalda, bonjour. C'est par une constatation que je commence notre entretien. Malgré les propositions intéressantes des grandes maisons d'édition, vous êtes resté fidèle à votre petit éditeur. C'est le dilettante éditeur qui vous avait découverte. Vous n'êtes pas la première à dire que vous vous moquez de la gloire et de l'argent, mais vous êtes la première que l'on croit vraiment.
Vous connaissez le proverbe « l'argent ne fait pas le bonheur » ? Moi, j'y crois. La célébrité peut être une chose éphémère, d'où l'importance de garder une certaine distance. Et attention, il ne faut pas confondre le succès et la gloire.
Vous n'avez rien changé à votre vie ? Vous habitez toujours à 50 km de Paris ?
Pour élever des enfants, ce n'est pas si mal. Je dis toujours « petits-enfants, petite vie ». Grands-enfants, grande vie. J'ai une petite vie de mère, pas très loin de la capitale. Je prends du temps pour aller chercher mes enfants à l'école, m'arrêter à la boulangerie, dire bonjour aux gens dans la rue. Ce n'est pas mal d'être en dehors, ça permet de mieux observer. Je suis spectatrice du monde.
Et comment la spectatrice est-elle devenue écrivaine ?
Jamais je n'ai osé dire « je serai écrivaine ». Je trouve ça prétentieux. À la fac de lettres, j'étais entourée de gens qui racontaient qu'ils allaient écrire. C'était grotesque. Je me dis toujours que mieux vaut faire que dire. Au départ, je préférais m'imaginer écrire plutôt qu'écrire vraiment. Parce que, quand tu t'y mets, ce n'est jamais aussi bien que dans ta tête. Puis un jour, je me suis lancée.
Comment avez-vous vécu le succès de votre premier livre ?
Comme à l'époque, je me séparais de mon mari, ça m'est complètement passé au-dessus de la tête. Pendant la journée, c'était la présentation de mon livre, je n'entendais que des « c'est super, t'es génial » et le soir, chez moi, j'étais triste. Maintenant, je me dis que c'était une chance parce que ça m'a permis de ne pas prendre la grosse tête. Et puis, comme je dis souvent, le cœur se brise ou se bronze.
Vous vous étiez mariée très jeune.
À 23 ans. Je suis partie de chez mes parents à 14 ans, j'ai fait plein de métiers, j'ai été caissière à Monoprix par exemple. À 23 ans, j'ai pensé qu'il était temps de me ranger. J'ai eu beaucoup de vie, mais tout ce que j'ai vécu, c'est de la matière pour écrire. Tout est bon à prendre.
Écrire, est-ce une thérapie ?
Je trouve que dire ça serait déplacé et peu respectueux envers mes lecteurs. Non, j'écris parce que je suis faite pour ça. Le bon Dieu m'a faite ainsi et j'accomplis ce travail. Je sais raconter des histoires, c'est mon petit don à moi. J'ai arrêté d'enseigner pour me consacrer entièrement à mes livres.
Qui est le premier lecteur de vos livres ?
J'ai dédié mon premier livre à ma jeune sœur. Comme vous le savez, c'est un recueil de nouvelles intitulé « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part ». Elle est ma première lectrice et quelquefois la dernière. Si elle me dit que ça ne va pas, je jette. Elle représente pour moi mon alter ego, mon autre moi, mon idéal sensible. Et puis c'est une fille bien et j'ai envie de plaire aux gens bien.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Deuxième sous-partie. Rouen, une ville à découvrir. Écoutez la conversation entre deux journalistes, Eric et Martine. Pour les phrases de 8 à 13, dites si c'est vrai, A, faux, B, ou bien si ce n'est pas dit dans le texte, C. Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d'une petite croix. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire les phrases de 8 à 13. Maintenant, vous écoutez le deuxième enregistrement.
Eric, responsable d'une radio libre, parle de Rouen, sa ville natale, qu'il connaît comme sa poche. À ses côtés se trouve sa collègue Martine, journaliste parisienne.
Je pense que Rouen mériterait plus que Paris d'être la capitale du pays. La situation géographique de cette ville est rêvée. Elle se trouve dans un large méandre de la Seine et, de ce fait, est facilement accessible de la mer. Son histoire est également à la hauteur de la capitale du pays. Les Gaulois, déjà, occupaient ce lieu. Les Romains en avaient fait une belle cité appelée Rotomagus. Puis, au XIIe siècle, Rouen devenait un des centres importants du royaume anglo-normand qui s'étendait des Pyrénées à l'Écosse.
Oui, mais depuis, Paris l'emporte sur Rouen sous bien des aspects, c'est évident. Aujourd'hui, Rouen évolue en tant que chef-lieu de la région Haute-Normandie et du département Seine-Maritime. C'est quand même quelque chose. Au fait, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir ici? J'ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais bien faire un petit tour de la ville.
Écoute Martine, à Rouen, tout se passe rive droite du fleuve. Là-bas, tu trouves tout ce que les touristes recherchent dans une ville. La vieille cité, les églises, la cathédrale, les restos, les cinés, la plupart des écoles, la vraie vie, quoi. Par contre, la rive gauche est réservée aux usines et aux grands ensembles d'habitations. Il y a bien sûr aussi quelques lycées rive gauche, mais ce sont surtout des lycées techniques ou d'enseignement professionnel. En réalité, Il s'agit dans cette ville du combat des 100 clochers contre les 100 cheminées.
Bon, je vais jeter un coup d'œil sur la cathédrale qui est réputée pour avoir survécu au bombardement sous la Seconde Guerre mondiale. C'est un monument incontournable de Rouen, que je sache. Mais je m'intéresse aussi à l'architecture moderne et je ne t'ai pas encore entendu parler de cet aspect de la ville.
C'est vrai. Comme tu n'as pas beaucoup de temps, je te propose donc deux endroits. Le Palais des Congrès, qui jouxte la cathédrale, et puis la place du Vieux-Marché, où tu trouves l'église et le mémorial à Jeanne d'Arc, achevé en 1978. L'architecture futuriste de ces deux monuments ne plaît pas à tout le monde. Certains y voient même un outrage à leur Jeanne brûlée vive à cette place en l'an 1431.
Merci pour tous les renseignements. Sur tes conseils, je vais faire un peu de tourisme. Ce soir, j'ai encore du travail à ma rédaction à Paris. Je dois donc rentrer au plus vite. Il m'est impossible d'aller, par exemple, à la rencontre des étudiants pour leur demander leur avis sur Rouen. Ce sera un programme pour mon prochain passage.
Maintenant, vous écoutez le deuxième enregistrement, encore une fois.
Éric, responsable d'une radio libre, parle de Rouen, sa ville natale, qu'il connaît comme sa poche. À ses côtés se trouve sa collègue Martine, journaliste parisienne.
Je pense que Rouen mériterait plus que Paris d'être la capitale du pays. La situation géographique de cette ville est rêvée. Elle se trouve dans un large méandre de la Seine et, de ce fait, est facilement accessible de la mer. Son histoire est également à la hauteur de la capitale du pays. Les Gaulois, déjà, occupaient ce lieu. Les Romains en avaient fait une belle cité appelée Rotomagus. Puis, au XIIe siècle, Rouen devenait un des centres importants du royaume anglo-normand qui s'étendait des Pyrénées à l'Écosse.
Oui, mais depuis, Paris l'emporte sur Rouen sous bien des aspects, c'est évident. Aujourd'hui, Rouen évolue en tant que chef-lieu de la région Haute-Normandie et du département Seine-Maritime. C'est quand même quelque chose. Au fait, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir ici? J'ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais bien faire un petit tour de la ville.
Écoute Martine, à Rouen, tout se passe rive droite du fleuve. Là-bas, tu trouves tout ce que les touristes recherchent dans une ville. La vieille cité, les églises, la cathédrale, les restos, les cinés, la plupart des écoles, la vraie vie quoi. Par contre, la rive gauche est réservée aux usines et aux grands ensembles d'habitations. Il y a bien sûr aussi quelques lycées rive gauche, mais ce sont surtout des lycées techniques ou d'enseignement professionnel. En réalité, il s'agit dans cette ville du combat des 100 clochers contre les 100 cheminées.
Bon, je vais jeter un coup d'œil sur la cathédrale qui est réputée pour avoir survécu au bombardement sous la Seconde Guerre mondiale. C'est un monument incontournable de Rouen, que je sache. Mais je m'intéresse aussi à l'architecture moderne et je ne t'ai pas encore entendu parler de cet aspect de la ville.
C'est vrai. Comme tu n'as pas beaucoup de temps, je te propose donc deux endroits. Le Palais des Congrès, qui jouxte la cathédrale, et puis la place du Vieux-Marché, où tu trouves l'église et le mémorial à Jeanne d'Arc, achevé en 1978. L'architecture futuriste de ces deux monuments ne plaît pas à tout le monde. Certains y voient même un outrage à leur Jeanne brûlée vive à cette place en l'an 1431.
Merci pour tous les renseignements. Sur tes conseils, je vais faire un peu de tourisme. Ce soir, j'ai encore du travail à ma rédaction à Paris. Je dois donc rentrer au plus vite. Il m'est impossible d'aller, par exemple, à la rencontre des étudiants pour leur demander leur avis sur Rouen. Ce sera un programme pour mon prochain passage.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Troisième sous-partie. Internat, Le grand retour. Écoutez un commentaire radiophonique sur l'internat pour adolescents. Pour les espaces de 14 à 20, complétez le texte qui résume ces idées. À chaque fois, vous devez utiliser un seul mot pour compléter le résumé. Écrivez les mots qui manquent sur la feuille marquée d'un stylo. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire le texte. Maintenant, vous écoutez le troisième enregistrement.
Plus que jamais, l'internat a du succès. De plus en plus de parents le choisissent comme cadre d'études pour leurs enfants, ou souvent aussi à la demande de ces derniers. 1330 internats en France accueillent près de 175 000 élèves du secondaire, depuis la classe de 3e au collège jusqu'à la terminale au lycée. L'internat n'est plus considéré comme une punition. Au contraire, c'est un projet que les parents construisent ensemble avec leurs enfants. En général, les élèves arrivent à l'internat vers 13-14 ans, quand ils commencent à se rebeller contre l'autorité parentale et à décrocher scolairement. Les parents, surtout les mères des familles monoparentales, ne savent plus comment faire et prennent l'internat comme un compromis. Autre cas de figure. Il y a des parents très occupés, qui travaillent tous les deux, et n'ont pas le temps de suivre la scolarité de leurs enfants. À cela, l'internat apparaît comme la meilleure solution pour mettre leur progéniture sur le bon chemin. La demande vient aussi de plus en plus des adolescents eux-mêmes. Ils ont envie d'être plus autonomes, de se libérer de leurs parents qui se mêlent trop de leurs affaires. C'est particulièrement vrai quand les jeunes sont élevés par un parent unique. Et il y a aussi tout simplement le rêve d'une vie en communauté avec d'autres jeunes de leur âge. La vie qu'ils imaginent en voyant des émissions comme la Star Academy. Il faut dire que la plupart des internats leur offrent un cadre de vie agréable. Les élèves y sont encadrés sur le plan scolaire et évoluent dans un environnement convivial. De leur côté, la plupart des internats n'acceptent que des élèves volontaires qui font la preuve de leur motivation. D'après les spécialistes de l'éducation, c'est une des clés de la réussite. Avant même leur admission, un psychologue scolaire reçoit les jeunes et leurs parents. Pendant cet entretien, ils présentent leur projet. Puis le psychologue examine le projet pour voir si la démarche est bien fondée.
Maintenant, vous écoutez le troisième enregistrement, encore une fois.
Plus que jamais, l'internat a du succès. De plus en plus de parents le choisissent comme cadre d'études pour leurs enfants, ou souvent aussi à la demande de ces derniers. 1330 internats en France accueillent près de 175 000 élèves du secondaire, depuis la classe de 3e au collège jusqu'à la terminale au lycée. L'internat n'est plus considéré comme une punition. Au contraire, c'est un projet que les parents construisent ensemble avec leurs enfants. En général, les élèves arrivent à l'internat vers 13-14 ans, quand ils commencent à se rebeller contre l'autorité parentale et à décrocher scolairement. Les parents, surtout les mères des familles monoparentales, ne savent plus comment faire et prennent l'internat comme un compromis. Autre cas de figure. Il y a des parents très occupés, qui travaillent tous les deux, et n'ont pas le temps de suivre la scolarité de leurs enfants. À cela, l'internat apparaît comme la meilleure solution pour mettre leur progéniture sur le bon chemin. La demande vient aussi de plus en plus des adolescents eux-mêmes. Ils ont envie d'être plus autonomes, de se libérer de leurs parents qui se mêlent trop de leurs affaires. C'est particulièrement vrai quand les jeunes sont élevés par un parent unique. Et il y a aussi tout simplement le rêve d'une vie en communauté avec d'autres jeunes de leur âge. La vie qu'ils imaginent en voyant des émissions comme la Star Academy. Il faut dire que la plupart des internats leur offrent un cadre de vie agréable. Les élèves y sont encadrés sur le plan scolaire et évoluent dans un environnement convivial. De leur côté, la plupart des internats n'acceptent que des élèves volontaires qui font la preuve de leur motivation. D'après les spécialistes de l'éducation, c'est une des clés de la réussite. Avant même leur admission, un psychologue scolaire reçoit les jeunes et leurs parents. Pendant cet entretien, ils présentent leur projet. Puis le psychologue examine le projet pour voir si la démarche est bien fondée.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Terminez le travail sur cette partie du test. Le test continue.